Aujourd'hui, nous allons parler de l'insertion, l'IAE, l'insertion par l'activité économique. Donc l'IAE regroupe différents types de structures, des TPE, des PME ou des associations qui ont la particularité, de faire partie de l'économie sociale et solidaire. Conventionnée par l'État, elle cherche à concilier performance économique et projet social en proposant des contrats à des personnes éloignées de l'emploi. Elles mettent ainsi leur développement au service de la lutte contre le chômage et les exclusions. Aujourd'hui, on peut compter plus de 3800 structures dans toute la France. L'insertion par l'activité économique est réservée aux personnes particulièrement éloignées de l'emploi pour favoriser leur insertion dans la vie sociale et professionnelle par le biais de contrats de travail spécifiques. Pôle emploi cible et oriente ces personnes vers des structures spécialisées en insertion sociale et professionnelle. Un salarié embauché bénéficie avant de sortir du dispositif d'un suivi et d'un accompagnement spécialisé. Donc, qui sont les bénéficiaires ? Les bénéficiaires d'une structure de l'IAE sont les chômeurs de longue durée, les personnes bénéficiaires des minima sociaux, les jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté et les travailleurs reconnus handicapés. Aujourd'hui, nous accueillons deux personnes qui travaillent dans des structures de l'IAE. Sylvie Olanier, directrice de l'association et ressourcerie La Petite Ours de Gap,
bonjour,
qui embauche des personnes en insertion, et Myriam Jamal, chargée de mission du collectif 05, association qui regroupe et anime un réseau des structures de l'IAE.
Bonjour.
Donc mesdames, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu succinctement et nous dire un peu ce que vous faites?
Alors, je suis Sylvie Olanier, j'ai été directrice des ressources humaines à La Petite Ours pendant 4 ans et demi et je viens de reprendre la direction depuis le 1er avril. Voilà, j'ai eu un parcours dans le social depuis 25 ans.
D'accord.
Et donc, moi, Myriam Jamal, j'anime le collectif des structures d'insertion sur le département à travers son outil, l'association Collectif 05.
Très bien. Alors du coup, l'insertion par l'activité économique est peut-être un peu obscure, peut-être qu'on ne connaît pas toutes les dimensions. Donc Jean-Joël, est-ce que tu peux peut-être nous donner des précisions sur ce secteur ?
Oui, j'ai choisi d'intervenir sur le mode des mots-clés, une pratique, vous le savez, Claire et Jean-Claude, que j'affectionne tout particulièrement en ce moment. Ainsi, j'ai souhaité m'en servir pour aborder l'insertion par l'activité économique, raccourcie par le sigle IAE, et ça reviendra souvent pendant l'émission, donc autant s'y faire tout de suite. Première entrée choisie, celle du militant ou plutôt du militantisme. L'IAE provient de la volonté d'imaginer des réponses locales aux questions de chômage, de travail et d'emploi. C'est historiquement un geste militant, la revendication que pour sortir de l'exclusion et retrouver une place digne en société, il faut passer par l'occupation, l'activité, le travail. Le concept d'insertion est initialement lié à des actions menées en faveur des personnes handicapées dans les années 70, avec l'émergence des premiers centres d'aide par le travail ou encore les ateliers protégés. Mais il prend également son origine au sein du réseau de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion et de certains de ces centres qui proposent à des individus une contrepartie à l'accueil et à l'hébergement. Militantisme aussi, car il faut attendre la circulaire de 1979 pour que ces pratiques soient faites en parfaite légalité avec la mise en place d'un régime dérogatoire au droit du travail. Deuxième entrée, celle de l'entreprise. Oui, car dès les années 80 et jusque la moitié des années 90, l'IAE a tenté de renouveler à la marge les finalités de l'entreprise et les conditions de retour à l'activité pour ceux qu'on considérait comme les surnuméraires du marché du travail. Alors que les années 70 ont sonné la fin du compromis fordiste entre production, capital et travail, les années 80 confortent l'idée que le chômage n'est pas conjoncturel mais bien structurel. Dans ce contexte, l'IAE ambitionne tantôt de remettre au travail sur des activités occupationnelles des individus à la marge du salariat, tantôt d'intégrer les demandeurs d'emploi dans une organisation en vue d'assurer une production marchande, ou tantôt d'envisager la scène du travail comme un espace de formation professionnelle alternatif. Enfin, tantôt de créer des emplois en particulier dans le domaine des services à la personne et dans la gestion de l'environnement. Sur cette période, l'IAE est reconnue et se développe, comme en témoigne la circulaire de 85 encadrant l'expérimentation des entreprises intermédiaires, et la loi de 1987 officialisant le statut d'association intermédiaire. L'IAE désigne aujourd'hui un ensemble divers de structures, d'entreprises, donc selon des statuts et des objets différents, associations intermédiaires, chantiers d'insertion, entreprises d'insertion, entreprises de travail temporaire d'insertion. Troisième entrée, celle des politiques publiques, puisque après la deuxième moitié des années 90, l'IAE entre dans une phase d'institutionnalisation et d'intégration au sein des services publics pour l'emploi. Phase accentuée par la loi du 29 juillet 98 relative à la lutte contre les exclusions. Ce qui n'est pas sans évoquer une vraie problématique d'ailleurs, comme le rappelle Jean-Louis Laville, qui connaît bien le sujet. Il dit, je cite, « Fortement sollicité pour le traitement social du chômage, les initiatives se sont retrouvées prises dans la mise en œuvre de mesures rabattues vers des logiques de programme, recouvrant et occultant des logiques de projet qui les animaient initialement. Enfin, dernière entrée, et que j'ai subtilement intitulée « Et maintenant », qu'on peut également décliner en « Et demain » ou « Et après-demain », en 2016, l'IAE est encore dans une période de changement structurel notoire lié à la réforme de son mode de financement, avec de nouvelles modalités pour le versement des aides publiques. Pour le dire rapidement, avant la réforme, les modalités de versement étaient différentes selon le conventionnement d'une structure. Depuis la réforme, un seul mode de financement est conservé, l'aide au poste d'insertion. Mais aussi la réforme de la formation professionnelle, qui est liée en fait à un impact de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, et également liée à la réforme du mode de financement. Le passage au contrat à durée déterminée d'insertion engendre une comptabilisation des salariés en insertion au sein de l'effectif de la structure, ce qui n'était pas le cas avant, notamment dans les chantiers d'insertion. Ils franchissent alors des seuils et doivent mettre en place des institutions représentatives du personnel. Cela implique par ailleurs de nouvelles obligations de cotisation et modifie quelque peu les modalités d'accès à la formation professionnelle continue. Ou encore concernant le lien entretenu avec le Fonds social européen FSE, mais je n'en rajoute pas plus car j'en ai déjà beaucoup dit.
Merci Jean-Joël pour ce retour résumé et historique sur l'insertion. Myriam ou Sylvie, est-ce que vous avez peut-être une réaction ou c'était plutôt complet comme... définition.
Oui, pour moi, c'est une belle présentation historique, un beau petit retour sur des origines à aujourd'hui. Ce qu'on peut dire sur le territoire, c'est que les structures d'insertion, pour la plupart, ont une bonne trentaine d'années, enfin entre 30 et 20 ans, et elles ont pu suivre effectivement une bonne partie de l'histoire que tu as pu présenter. Et on retrouve bien ce caractère d'initiative du territoire et ensuite des structures qui essayent de faire construire leur chemin à travers les interventions publiques et les modifications législatives.
Merci. Et comme chaque mois, on va passer en revue les différentes actualités locales et nationales qui concernent l'ESS. Donc la première actu, le Fonds d'innovation sociale, le FISO, est opérationnel en région PACA. Donc le FISO permet l'accès à un prêt à taux zéro ou à une avance remboursable pour tout type d'entreprise qui porte un projet innovant économiquement viable et répondant à des besoins sociaux non ou mal satisfaits sur le territoire régional. Donc si vous êtes intéressé, que vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver cet appel à projet sur le site de la région PACA.
La prochaine permanence d'ESIA PACA aura lieu à l'UDES 05 à Gap le 4 juillet 2016. Si vous cherchez des pistes pour financer, développer ou consolider un projet, venez rencontrer ESIA le 4 juillet. Plus d'informations sur le site udes05.org.
Une autre permanence organisée à l'UDES, cette fois c'est la permanence de l'URSCOP qui aura lieu le 1er juillet 2016 à l'UDES. Si vous souhaitez créer votre entreprise en statut coopératif ou vous pensez transmettre votre entreprise à vos salariés, eh bien rendez-vous le 1er juillet à l'UDES et pensez à vous inscrire au préalable.
Enfin, un dernier rendez-vous qui ne nous réjouit pas forcément. En effet, le conseil d'administration de l'UDES, après avoir reçu diverses inquiétudes de nombreuses associations du territoire, a décidé d'organiser une table ronde le 29 juin à l'UDES 05. L'objectif est de faire un état des lieux des difficultés des associations et de penser ensemble des actions afin d'y remédier. Jean-Claude, peut-être une petite réaction par rapport à ça ?
Oui, je pense que le conseil d'administration qui s'est réuni dernièrement a ainsi voulu répondre à beaucoup d'inquiétudes qui nous reviennent de nos adhérents, voire d'autres acteurs de l'ESS. Aujourd'hui, il y a un flou, j'allais dire un flou artistique, au niveau de soutien que nous a porté jusqu'à présent le conseil régional par des subventionnements. Et aujourd'hui, on ne sait plus trop où on en est. Donc cette réunion se déroulera après une session importante qui aura lieu le 24 juin au niveau du conseil régional. Donc ça nous permettra de faire le point et de faire un tour de table et de voir ce qu'on peut décider pour permettre une meilleure identification des problèmes de façon à prendre les mesures adéquates pour trouver des solutions. Je pense que l'UDES, l'Union départementale de l'économie sociale et solidaire, sera dans cette démarche totalement dans sa mission, une mission de proximité à la disposition de ses adhérents et de tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire des Hautes-Alpes.
Merci Jean-Claude. Myriam, Sylvie, est-ce que vous vous sentez peut-être concernée, vous gérez aussi toutes les deux des associations concernées par ce sujet ?
Oui, assez directement. C'est vrai que le financement de ces structures est potentiellement remis en cause à travers des changements réglementaires et législatifs. Je trouve l'initiative de la réunion du 29 intéressante et constructive pour pouvoir construire une position, mais aussi pour pouvoir être un peu plus fort sur la construction du futur de nos associations et entreprises, parce qu'il s'y passe beaucoup de choses et voilà, les gens sont en train de construire l'avenir et de le faire avec un regard partagé avec les collègues, ça me paraît très important.
Je pense qu'on ne peut pas rester l'arme au pied, comme on dit, en attendant que nos structures associatives du département, qui jouent une mission essentielle en matière de lien social, par exemple, en attendant qu'elles tombent, ces structures, comme des mouches, comme disait ce matin le président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire que j'avais au téléphone. Je pense qu'il faut qu'on fasse un bilan de la situation, et que suite à ce bilan, on engage les actions pour faire en sorte que ces associations qui risquent de traverser des moments difficiles puissent être utilement soutenues auprès de tous les décideurs du département. Et ainsi, je pense que l'UDES aura rempli sa mission.
Et voilà, donc si vous vous sentez concerné par ce sujet, rendez-vous le 29 juin à 10h à l'UDES. Et maintenant, une petite pause musicale avec un jeune groupe autocompositeur, The Dudes and Dudes Show. Nous allons écouter l'extrait « Comme pense Bête », extrait de leur premier album.
Je voudrais les symphonies de saxo qui embrouilleraient les ondes radio.
Apocalypse générale, des big bands à tous les états.
Je voudrais que les violons s'imposent, que les trombones explosent.
Que l'on impose la prose dans tous les milieux moroses.
Qui embrouillerait les ondes radio.
Apocalypse générale, des big bands à tous les états.
Je voudrais que les violons s'imposent, que les trombones explosent.
Que l'on impose la prose dans tous les milieux moraux.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur Entreprendre Autrement, l'émission qui parle d'ESS dans le département des Hautes-Alpes. Et pour cette 6e édition, nous recevons Sylvie de la Petite Ourse et Myriam du collectif 05. Alors Sylvie, en quelques mots, c'est quoi la Petite Ourse ?
Alors la Petite Ourse est née en 1992, donc il y a 24 ans, sous la forme d'une association loi 1901. C'est un atelier chantier d'insertion. qui travaille avec l'outil de la ressourcerie, c'est-à-dire qu'on récupère des dons de particuliers des autres Alpes, qu'on fait passer dans les ateliers, en fait, et sur lesquels on va former nos salariés à la restauration, au nettoyage, au tri, au magasinage. Constitué de 9 membres pour le conseil d'administration, puisque c'est une association de 9 membres très actifs, hein, on se réunit tous les mois, et de 28 adhérents qui sont présents sur toutes les actions que présente la Petite Ourse, donc la lutte contre l'illettrisme, la préparation des brocantes, qui sont des journées thèmes annuelles, des repas ou autres actions sur lesquelles ils peuvent être investis. Des réseaux, Chantier École Nationale, le réseau des ressourceries, l'ADEME, le Cinésie, et bien sûr qu'on adhère au collectif qui est aujourd'hui présent dans nos locaux.
Ouais, belle transition, Myriam. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce qu'est le collectif ?
Alors le collectif, c'est une association d'associations. C'est une émanation des structures d'insertion par l'activité économique, qui a été créée en 2001. Et donc les membres du collectif sont des personnes morales. Le but du collectif, c'est d'abord d'animer le collectif des structures, de permettre la rencontre, l'échange de pratiques entre professionnels, d'éviter l'isolement dans un secteur professionnel un peu particulier. Le collectif a aussi un rôle de représentation du secteur auprès des partenaires et du territoire des Hautes-Alpes, une représentation territoriale, parce que c'est une organisation assez particulière, il n'en existe pas sur tous les départements. Et ensuite, le collectif a un rôle d'appui au développement des structures, notamment à travers l'émergence et le portage de projets communs. Par exemple, le collectif gère un groupement d'employeurs, a pu porter des projets dans le cadre du financement européen ou des événements. Voilà, l'idée globale, c'est de construire aussi une position commune sur le territoire. Après, ce que je peux rajouter, c'est que le collectif, ça représente donc l'IAE sur le département. L'IAE sur le département, c'est 14 structures, rapidement, Alpes Blanchisserie Insertion, comme par enchantement, Lac, Rivière et Sentier, La Petite Ourse, Environnement et Solidarité, CPU Haute-Durance, Le Gabion, Les Environneurs, Jardin du Buèche, Le Néauvent, Les Villages des Jeunes, Les Files d'Ariane, Humanis Intérim, aux Alpes Emploi Relé et la ressourcerie de Pralon. Ce sont toutes les structures d'insertion du département.
Ça représente combien d'emplois à peu près à la louche toutes les institutions que tu viens de nous citer ?
Sur le bilan réalisé dans le cadre du collectif sur l'année 2015, les structures membres, ça représente 1000 emplois qu'on dit nous en insertion. C'est-à-dire qu'il y a 1000 personnes qui sont passées dans ces structures-là dans le cadre d'un contrat, comme évoqué Jean-Joël en début d'émission, d'un CDDI. Ensuite, il y a des équipes permanentes qui font tourner ces différentes associations, ces différents projets, qu'on évalue à 80 ETP sur le département. Voilà.
Donc c'est loin d'être négligeable. Et dans les 1000 personnes qui sont passées dans l'insertion, donc dans ces associations, ces entreprises d'insertion, il y en a combien qui retournent à l'emploi, je dirais, entre guillemets, normal
Alors, on a différents types d'évaluations sur les sorties, qu'on a appelées les sorties. Celle qui est communément retenue, c'est celle de l'État, parce qu'on a un contrôle de l'État sur les résultats des structures. Sur le département, on a dénombré l'année dernière autour de 60% de sorties positives. Donc, on note positive des sorties en emploi, en contrat de plus de 6 mois, de moins de 6 mois et en formation qualifiante, voilà, globalement. Ensuite, il y a un certain nombre d'évolutions ou de sorties qui, à nos yeux, sont remarquables pour des personnes pour lesquelles l'issue du contrat n'a pas pu se concrétiser sur un emploi, mais sur une solution à la vie sociale, à la vie personnelle, qui ne peut pas passer par ce type de résultat. L'IAE s'adresse quand même à l'origine à des personnes qui n'ont pas leur place sur le marché du travail actuellement.
Ce qu'on dit des fois, elles ne sont pas employables. Donc on voit quand même que l'action que vous menez, toutes ces entreprises d'insertion, ces actions sont loin d'être négligeables pour notre petit département alpin. Et donc nous, au niveau de l'économie sociale et solidaire et l'UDESN, notre souci, c'est vraiment de vous soutenir au maximum, vous accompagner, vous aider. Et j'espère que dans le même état d'esprit, on aura le soutien de tous nos décideurs. Je pense bien sûr aux représentants de l'État, de la région, du département, enfin tous les acteurs économiques du département, de façon à ce que ce travail formidable que vous réalisez puisse perdurer dans les années à venir.
Ce que je peux rajouter, c'est deux éléments. L'IAE, c'est aussi de la formation. Sur 2015, c'est plus de 18 000 heures de formation délivrées pour les personnes en parcours, au sein des structures et à l'extérieur. Et c'est aussi des activités économiques qui portent toute l'activité concrète réalisée par les salariés dans 7 secteurs d'activité. Donc ce sont des entreprises qui produisent des biens et des services sur le territoire.
Je me plais à répéter à toutes celles et ceux que je rencontre, et notamment les représentants de l'État, et voire au-delà, c'est que finalement l'économie sociale et solidaire, et vous en êtes un parfait exemple, remplit la mission que ni l'État ni le secteur marchand classique ne peut remplir. Quoi. Je veux dire que ça, il faut vraiment s'en imprégner. Et j'insiste un peu auprès des auditeurs et des auditrices, mais je pense que c'est l'essentiel. C'est-à-dire que ces acteurs de l'ESS remplissent cette mission. S'ils n'étaient pas là, je pense qu'il faudrait les inventer. Quoi. Et souvent, je me dis que les citoyens au Alpin ne se rendent pas compte que tous les jours, sans le savoir, ils font appel à des acteurs de l'ESS. Et ça, c'est quand même important de le rappeler.
Et pour revenir, Myriam, tu as parlé de parcours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être le parcours typique d'un... Pour mieux comprendre, d'un salarié en insertion, peut-être de son arrivée à le moment où il est dans la structure et au moment où il en sort.
Donc les futurs salariés arrivent orientés par des partenaires sociaux ou d'État, que ce soit le conseil départemental, la justice, Pôle emploi ou d'autres partenaires associatifs. Il y a une demande d'agrément qui est faite à Pôle emploi, donc il y a des critères, il faut être chômeur longue durée, reconnu travailleur handicapé ou un public jeune plus en difficulté avec un parcours un peu de délinquance, donc on travaille beaucoup avec la justice. Ces personnes vont intégrer dans le cadre d'un recrutement normal et classique, c'est-à-dire qu'on fait des entretiens de recrutement, voilà, sur des postes. On ne demande aucune compétence, on demande simplement la motivation et l'envie de cette personne de vouloir intégrer notre circuit, parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes pour les personnes, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'elles réintègrent le monde de l'emploi avec respect des horaires, accepter d'être formées, accepter d'être bousculées quelquefois. Pour aboutir, donc les parcours sont de 6 mois à 2 ans. Pour les plus jeunes, il y a quelques dérogations pour les personnes plus âgées qu'on accompagne vers la retraite. Ce que nous, on leur donne et ce qu'on leur met en main comme outil, c'est beaucoup, et particulièrement, enfin moi je parle pour la petite tour, c'est pour tous, c'est beaucoup de formations, mais des formations, des savoir-être en premier lieu. Donc ça va être notre première mission, il va falloir qu'ils l'acceptent, c'est pas si simple que ça. Et puis après une formation sur des gestes techniques, puisqu'aujourd'hui les encadrants sont des professionnels, pour nous de l'ébénisterie, de la tapisserie, du magasinage. Et ils vont avoir un parcours de formation en interne, sur des heures pratiques en atelier, mais aussi sur des heures en salle où on a la chance d'avoir des bénévoles qui les accompagnent sur la préparation de concours, d'entrée en formation ou simplement de lutte contre l'illettrisme, ou d'apprentissage de la langue française pour les personnes qui arrivent de l'immigration. Donc une grande mixité et avec un parcours vraiment de formation à tous les niveaux.
Et en moyenne, un salarié reste combien de temps Est-ce qu'il y a une moyenne ou pas?
Il y a une moyenne qui est donnée, qui était d'une année à peu près. Et moi, pour la petite tour, je me rends compte qu'aujourd'hui, on a besoin souvent d'un an et demi, de deux ans. On a besoin de plus en plus de temps parce que les personnes ne vont pas bien. Et tout ça en précisant quand même qu'aujourd'hui, au vu du changement de loi, et on nous a beaucoup bousculé et on laisse quand même de côté les personnes les plus loin de l'emploi, malheureusement, alors que c'était notre mission première. Mais je crois qu'il faut quand même le préciser.
Très bien.
C'est bien de le préciser parce que, à mon avis, Jean-Joël tout à l'heure nous rappelait le pourquoi du comment de la création de ces entreprises d'insertion. C'était bien quand même au départ pour essayer d'intégrer dans l'emploi les personnes les plus éloignées de l'emploi. Et quand j'entends ce que vous êtes en train de dire, malheureusement, j'ai l'impression qu'on a un peu oublié ce premier objectif qu'on s'était fixé il y a quelques années, quand la loi a été mise en place.
Tout à fait. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, il y a la production, on a des baisses de financement, on est quand même malgré tout, même si on est soutenu, on est moins soutenu, et qu'on est obligé de trouver un équilibre entre notre mission d'insertion
et l'équilibre de nos budgets. Donc il faut produire et vendre.
Moi, je voulais juste dire un truc. Il y a eu dernièrement la brocante de la Petite Ours. Et j'ai trouvé ça intéressant. C'est qu'en fait, finalement, par exemple, beaucoup de gens viennent chez vous, ne savent pas que vous êtes une structure d'insertion. Alors, ils viennent et ils s'imaginent que c'est, je sais pas, une ressourcerie du coin qui n'a pas forcément un objet insertion. Et je trouve ça assez intéressant parce que finalement, derrière ce travail-là, il y a un objet social qui est quand même particulier. Et voilà.
On est resté durant des années avec la clientèle, ce qu'on appelait la clientèle Petit Ours, des personnes qui connaissaient la ressourcerie et qui adhéraient au projet de l'association. On a fait le choix d'ouvrir la clientèle et d'aller la chercher plus loin, donc c'est aussi en montant en compétences. Il y a eu la boutique éphémère aussi qui a eu lieu rue Pérolière au mois d'avril, qui a eu un grand succès. Aujourd'hui les gens, en effet, on a une clientèle de droit commun qui vient pour acheter des objets de qualité et avec un travail de qualité.
Ouais, non, clairement, et ça peut être plusieurs types de clientèle. Nous, on cite souvent les étudiants, par exemple, qui profitent effectivement de cette manne parce que ça leur permet d'acquérir des biens pour leur logement, et puis éventuellement de les ramener après. Donc c'est intéressant parce qu'il y a ça intéresse. Moi, je fais partie de ceux qui sont intéressés par ça. Hein. Ouais. Et je pense que là, c'est très large, quoi. Et c'est intéressant parce que derrière, vous avez une mission d'insertion, quoi. Voilà, je voulais juste le dire parce que je pense que des fois, on oublie un peu le travail qu'il y a derrière. Et voilà.
Et alors peut-être. Assez rapidement, est-ce que, pour mieux comprendre, vous pouvez nous expliquer les liens, justement, par exemple, entre le collectif et ses structures? Mais du coup, là, on va prendre la Petite Ours, par exemple, entre le collectif et la Petite Ours, ou le collectif, ses structures.
Eh bien, par exemple, la Petite Ours, elle est membre du collectif, comme la plupart des structures du département. Plus particulièrement, la Petite Ours fait partie des membres fondateurs, donc dès l'origine, depuis 2001. La Petite Ours est un des administrateurs du collectif. Donc la directrice Sylvie Ollanier participe aux réunions mensuelles, à des projets, à diverses actions.
La Petite Ours s'est investie sur les projets portés par le collectif, mais je pense que c'est très important. Aujourd'hui, le collectif est moins financé. Quel dommage, parce que c'était vraiment un lieu, et ça restera de toute façon, un lieu porteur d'échanges, mais aussi porteur de projets. On est parti rencontrer les structures italiennes dans le cadre d'Erasmus. La foire exposition, où on a pu se regrouper et se montrer au grand public, et que seul, c'est difficile. Et voilà. On a travaillé aussi sur le partenariat avec l'UPE, l'ouverture aux entreprises, qui est l'avenir des structures d'insertion, c'est travailler avec les entreprises.
Et là d'ailleurs, Sylvie, juste parce que c'est vrai qu'il nous reste peu de temps, mais ça c'est un des missions, je trouve, que fait le collectif. Mais qu'est-ce que par exemple une entreprise classique qui aurait un intérêt peut vous apporter à vous aujourd'hui en tant que structure d'insertion? Quel est l'intérêt?
Alors on s'en sert à plusieurs niveaux. On s'en sert dans une première étape sur l'immersion de nos salariés, c'est-à-dire les mettre dans l'emploi, mais sans être accompagné Petite Ours, parce qu'on est quand même dans un rôle d'accompagnement que les entreprises ont notre management. Ça c'est la première chose. Et le deuxième, c'est l'emploi. Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé avec les entreprises ces deux dernières années et je me rends compte que mes résultats sont vraiment meilleurs parce qu'on change le regard de l'insertion en travaillant avec l'entreprise. Voilà, on répond à leur manque et en même temps, on change l'image que l'insertion avait.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Finalement, toutes ces entreprises d'insertion, comme beaucoup d'entreprises de l'ESS, remplissent des missions que ni les pouvoirs publics, ni le secteur marchand habituel ne peuvent remplir. Et donc, moi, je ne sais pas, il nous reste peu de temps, mais je voudrais vraiment remercier et saluer le travail de la Petite Ours et du collectif, très sincèrement. Je pense que ces structures méritent d'être soutenues. Parce que sans elle, je pense que il y aurait très peu de personnes en grande difficulté. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la situation sociale et économique se soit améliorée. On a de plus en plus de gens qui sont à la marge de l'emploi, qui sont largués, comme on dit. Et donc, on a de plus en plus besoin de les récupérer, en quelque sorte, entre guillemets, hein, et de leur donner un avenir. Et vous remplissez vraiment un rôle prépondérant. Donc, je voudrais, au nom de l'Union départementale d'économie sociale et solidaire, vous féliciter. Et s'il y a des décideurs qui nous écoutent, leur dire que surtout, ne nous abandonnez pas, parce que c'est pas nous en tant que structure, parce que nous, en tant que structure, on peut disparaître et puis finalement, c'est pas très très grave. Par contre, les gens en difficulté, les salariés en difficulté, les hommes et les femmes qui sont en difficulté, malheureusement, ils seront toujours là. Ils ont besoin d'être accompagnés. Donc, on a vraiment besoin d'assurer, d'avoir ce soutien des décideurs du département.
Merci beaucoup à vous. Merci. Comme d'habitude, c'est trop court. Et c'est nos émissions. On vous remercie à tous et merci à Fréquence Mistral de nous accueillir et au mois prochain.
Au revoir.
Au revoir. Merci.